Bonjour, bienvenue dans La Reprise.
La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là. Et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Tinuane, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcasts. Lorsque j'ai créé ce podcast, c'était par envie d'explorer cette période dont on parle si peu, la reprise du travail après la naissance d'un enfant. Puis j'ai réalisé que c'était aussi une manière de me réapproprier une reprise qu'on m'avait volée, parce que j'ai subi un licenciement économique pendant mon congé maternité. Je connais donc bien les sentiments de colère et d'injustice qu'expriment celles qui vivent une reprise douloureuse, du fait d'une rupture de travail imprévisible, d'une placardisation ou de harcèlement et discrimination. Et je me suis dit qu'il fallait sensibiliser le plus de monde possible. C'est pourquoi j'ai voulu interroger les avocats sur le sujet, pour qu'ils et elles nous parlent de leur expérience et qu'ils nous transmettent la base de savoir indispensable pour être en alerte au cas où, mais aussi pour désacraliser leurs fonctions et faciliter ainsi l'accès au droit et à la justice. Commençons par Maître Kirkia Charian, qui a consacré sa vie à la défense des salariés. Avocate depuis plus de 40 ans à Montpellier, il parle du droit du travail comme nul autre, avec un engagement et une passion proche du lyrisme. Avec lui, nous discutons de ce qui retient des difficultés rencontrées par les mères à leur reprise, des notions de placardisation et de poste équivalent, du cadre de la réponse judiciaire et du rôle de l'avocat, dans le cadre ou non d'un contentieux au prud'homme. Mais ce que je retiens surtout, c'est ce qu'il dit à propos des blessures qu'engendrent ces épreuves au retour de congé maternité, les raisons pour lesquelles il encourage les mères à ne pas laisser faire. Et bien sûr son point de vue, et non une injonction. Car il n'y a que celles qui subissent ces injustices, qui peuvent savoir ce qu'elles sont capables de faire et d'assumer à ce moment-là, tant au niveau psychologique que financier. Je ne vous en dis pas plus si vous souhaitez une belle écoute. Mais juste avant, je dois vous prévenir que vous allez parfois entendre des voix d'enfants dans cet épisode. Car le jour de l'interview, j'ai dû à la dernière minute garder mes enfants malades avec moi. Une vie de maman, quoi. Bonjour, Monsieur Kirkia Charian.
Bonjour.
Je précise que vous êtes à distance puisque vous êtes dans le sud de la France et moi à Paris. Le sujet des injustices, des difficultés et des discriminations dans le monde du travail liées à la parentalité et à la maternité plus précisément, c'est un sujet qui est très attendu par nos auditeurs et nos auditrices. Et donc, merci de vous rendre disponible. Alors, avant de commencer à parler de ce sujet précisément, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, Luc Kirkia Charian. C'est un nom d'origine arménienne et je suis spécialiste en droit social à Montpellier depuis 43 ans. Je n'ai fait que de la défense prud'homale salariée pour des raisons de choix et d'identité. Donc je ne sais rien faire d'autre que cela.
Mais vous le faites très bien, j'imagine.
Je fais au mieux, avec plaisir en tout cas.
Il faut préciser que vous avez été aussi bâtonnier. Ça veut dire représentant des avocats, c'est ça?
Ça veut dire le chef, même si la notion est un peu connotée, le responsable de l'ensemble du barreau, en l'occurrence des 1250 avocats de Montpellier. J'ai été élu, oui, par mes pairs pendant 2 ans. C'est un mandat qui est une fierté pour moi parce que les socialistes, on appelle de cette façon chez nous dans notre jargon les spécialistes en droit social, sont rarement désignés, élus par leurs pairs pour être bâtonniers. C'est une matière qui est un petit peu délaissée, le droit du travail.
Mmh. Alors maintenant, du coup, si on rentre dans le sujet, quelle est la proportion des dossiers que représente à peu près le sujet des difficultés et des discriminations vécues par des parents dans le cadre de votre activité, dans votre cabinet?
Alors, c'est facile et difficile de répondre à cette question. C'est facile si je ne retiens que les dossiers qui traitent de la discrimination et c'est tout. C'est-à-dire de la seule question des différences, qui est déjà un champ immense. hein, des différences de traitement en matière d'égalité salariale, en matière professionnelle, de carrière, entre les femmes et les hommes, c'est 10-15% des dossiers. Mais l'ensemble des autres dossiers, qui les contentieux de la rupture, révèlent aussi des comportements discriminatoires. Il y a de la discrimination dans presque tous les dossiers.
D'accord.
Mais ce sont des réalités qui affleurent, si vous voulez, quand on travaille sur le dossier. C'est pas nécessairement ce pourquoi les gens sont venus me voir.
D'accord. Donc ça veut dire que, voilà, que globalement, des gens viennent vous voir pour, par exemple, des problématiques, des licenciements abusifs. Et dans ce cadre-là, on peut émettre un autre point complémentaire au dossier de l'ordre de la discrimination.
Oui, leurs explications révèlent en réalité, dans la confrontation, dans le débat, des traitements discriminants à l'égard des femmes, principalement. On a bien compris que ce sont les femmes qui sont discriminées généralement dans le travail, en matière de carrière essentiellement, évidemment de salaire, mais d'abord de carrière et de progression. Ce sont vraiment des sujets récurrents, même si l'objet de la consultation, ça n'est pas cela.
Et si on parle du coup plus globalement de tous les contentieux qui sont liés à des problématiques de maternité ou de paternité, ou qui sont liés du coup au retour au travail après un congé maternité, un congé paternité, est-ce que vous avez une idée de ce que cela représente comme volume chez vous ?
Alors, je n'ai pas de représentation chiffrée qui puisse vous être donnée. Par contre, à chaque fois que je rencontre une femme qui vient de sortir d'un congé maternité ou plusieurs congés de maternité, c'est la problématique centrale. Comment rendre compatible, pour l'employeur d'abord, le retour au travail sans mise à l'écart, sans placardisation, et les responsabilités familiales et parentales. Ça, c'est massif.
Oui.
Et j'ai l'impression que cette question-là n'a pas évolué de façon significative depuis 40 ans.
Ah oui.
C'est quand même un constat assez catastrophique, hein, que je fais. Et ce sont des impressions, si vous voulez. Je n'ai pas, moi, de statistiques réellement sur mon activité. En tout cas, la question des discriminations et des écarts dans les carrières, bien sûr les salaires hommes-femmes, c'est une question récurrente. Rares sont les dossiers où elles ne se posent pas. Rares sont les dossiers concernant les femmes où elles ne se posent pas.
D'accord.
Je veux dire que c'est même exceptionnel.
Ah oui, il y a toujours, en fait, finalement, un fond de discrimination.
Bien sûr. Je vais même vous raconter une histoire courte. J'ai été à plusieurs reprises amené à traiter des questions de discrimination syndicale, salariale en matière syndicale. Je pense à une entreprise que je peux citer, c'est Sanofi à Montpellier, qui, sur le plan du salaire et de la carrière, discriminait un certain nombre de responsables syndicaux cadres. Parmi les trois cadres dont je me suis occupé, la procédure est terminée, l'arrêt est public, on peut en parler, il y avait une femme, mais qui était non seulement discriminée en raison de son appartenance syndicale et de ses mandats, mais au sein des trois discriminés, elle était discriminée doublement parce que, comme femme, sa progression avait été ralentie encore.
Ah oui.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu l'histoire des poupées russes. Quand on reçoit quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il va nous dire, il traite d'un sujet qui le préoccupe, et en échangeant, on révèle un certain nombre de situations anormales. En l'occurrence, les trois militants syndicaux qui étaient venus voir n'avaient pas, pas plus d'ailleurs, la femme que les deux hommes, vu le dossier sous ce jour-là. C'était pourtant particulièrement évident. Oui, donc vous voyez, c'est réellement récurrent.
D'accord. Et vous avez utilisé le terme de placardisation. Ça me fait penser à justement une question d'une de mes auditrices qui était de demander est-ce que le fait d'être mis au placard, hein, donc c'est-à-dire ne pas retrouver le périmètre de son poste d'avant, pas retrouver les mêmes responsabilités ou les mêmes types de clients, est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est une discrimination? Est-ce que c'est quelque chose qui est défendable?
Alors, c'est non seulement défendable, mais c'est absolument indispensable d'accompagner les femmes dans ces situations-là pour que leur retour soit sécurisé, mais c'est presque à chaque fois une difficulté. Pour des raisons d'ailleurs qui sont objectives, c'est que l'absence, quelle qu'en soit la raison, et évidemment l'absence légitime, parce qu'elle éloigne, c'est la palissade que le salarié de son lieu de travail, lui fait perdre un certain nombre de repères, de connexions humaines avec son entourage professionnel. Et le retour après une longue absence, la grossesse est considérée comme une longue absence avec certaines absences pour maladie, c'est toujours extrêmement compliqué. Et les difficultés ne viennent pas toujours d'ailleurs de l'employeur, elles viennent parfois de l'employeur, mais aussi de l'entourage, et y compris de la personne qui a remplacé Alors, en principe, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conclu finalement pour la durée de l'absence, si vous voulez, y compris auprès de cette personne qui a pris la place, en quelque sorte, l'employeur cherchant à s'accommoder de ces situations compliquées, mais sans les anticiper. Mmh. J'ai rarement vu un patron anticiper ces situations. Pourtant, ces questions sont largement prévisibles et des solutions doivent être trouvées, mmh. y compris si on veut conserver dans l'emploi la personne qui avait été recrutée en principe pour organiser le remplacement. Il y a rarement de prévision de l'employeur. C'est presque au dernier moment que le retour s'organise, quand il s'organise, et très souvent, il s'organise avec plusieurs semaines de retard, ce qui est catastrophique sur le plan humain pour les femmes qui reprennent l'activité professionnelle.
Mmh. Et du coup, si passé ces semaines-là, la placardisation prend toujours effet, on peut attaquer son employeur pour ça ?
Oui, alors, bien sûr, mais si vous voulez, l'action juridique n'est pas adaptée, le calendrier judiciaire n'est jamais adapté à des situations d'urgence comme celle-là. Mmh. Ce qui est dommageable, c'est que, notamment dans les entreprises où il y a des représentants syndicaux, ces questions ne soient pas débattues en amont, réfléchies en amont, ne fassent pas l'objet de conventions, d'accords, vous voyez. Mmh. Ça, c'est, au fond, le constat que j'ai fait toujours et qui n'a pas changé. Le retour des femmes n'est pas anticipé. Mmh. Donc, il peut ne pas y avoir une volonté réellement de placardiser quelqu'un. Mais la placardisation, c'est un élément objectif. Mmh. Hein. La femme qui veut retrouver l'intérêt pour son travail et qui n'a aucune raison de perdre en quelque sorte sa place, c'est-à-dire son rôle, ses fonctions qualifiantes, se trouve délaissée. Et c'est catastrophique hein, sur le plan psychologique, sur le plan humain. Ça génère des souffrances incroyables. Ça ramène la jeune maman à l'idée qu'il va falloir faire un choix entre l'activité professionnelle si elle ne lui procure plus de plaisir. Mmh. C'est un sujet ça, que j'aborde très souvent, celle du plaisir au travail. C'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui défend des salariés qui vivent des situations difficiles. Mais au contraire, je trouve que c'est un paradoxe nécessaire. Le travail, c'est identitaire. C'est ce qui fait qu'on s'aime un peu. Mmh. Pas s'aimer trop, mais ces situations de mise au placard, c'est nécessairement la perte de l'estime de soi pour celle qui le subit. Donc oui, vous m'interrogez sur la fréquence des situations, c'est universel, c'est récurrent, c'est tout le temps. Mmh. Y compris dans les grandes entreprises où il y a des accords internes et des syndicats représentatifs qui ont réfléchi sur ces questions. Le retour de la femme sur son travail, bien sûr que c'est un sujet en droit, il y a des textes qui prévoient un droit à la réintégration. Mmh. Droit à la réintégration sur son poste ou un poste équivalent. Vous m'avez compris que c'est derrière cette notion et avec cette notion et cette possibilité que les discussions se nouent, si vous voulez. Mmh. Un poste équivalent. Qu'est-ce que c'est qu'un poste équivalent ? Une autonomie équivalente, un niveau de responsabilité équivalent, mais la reconnaissance des autres, ça ne se mesure pas immédiatement. Mmh. Donc, le poste peut être apparemment de même niveau, correspond à une même qualification, justifiant un même salaire, mais en même temps ne pas être, en raison de sa situation, dans l'organigramme, reconnu, si vous voulez, réellement. Hein. Et nous savons que cette gratification, pour les uns et pour les autres au travail, c'est le carburant. Mmh. Hein. C'est le regard des autres aussi. Hein. C'est pas simplement le regard de soi, le regard sur soi-même. Mais c'est aussi le regard des autres. L'entreprise, c'est un ensemble organisé de personnes.
Oui, tout à fait.
Donc oui, ces situations sont extrêmement fréquentes, elles ne sont pas anticipées, et les réponses judiciaires, elles sont possibles, mais elles sont rarement adaptées, parce que le calendrier judiciaire, c'est pas l'urgence, vous le savez.
Oui, ce que vous dites derrière tout ça, c'est que finalement, dans une situation où on revient au travail, on est dans une problématique où l'entreprise nous met à mal, l'outil judiciaire ne peut pas réparer ça dans l'immédiat, ni à court moyen terme en fait.
Il est inadapté.
Ça ne marche que lorsqu'il y a en fait rupture du contrat d'un côté ou d'un autre.
Voilà, l'échec de la procédure judiciaire, c'est ça. C'est que tout se traite à l'occasion d'un contentieux de la rupture. Mmh. Alors que le Conseil des prud'hommes et la juridiction qui traite des litiges individuels entre employeurs et salariés naît de l'exécution du contrat de travail et de sa résiliation. Exécution du contrat, résiliation du contrat, il devrait y avoir dans une société idéale autant de litiges, si je puis dire, nés de l'exécution du contrat de travail que de litiges résultant de la résiliation du contrat. Mmh. En réalité, le Conseil des prud'hommes est resté le tribunal des licenciements. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le mal est fait, la réponse judiciaire arrive. Grand décalage, d'ailleurs, dans le temps. La justice serait moderne si elle intervenait sur le réel. Mmh. Hein, voilà, si elle modifiait le réel. Et ça n'existe pas.
Oui, ça n'existe pas. Du coup, qu'est-ce que vous conseillez à ces femmes qui retournent de leur congé maternité ou même avant même de retourner congé maternité, parce qu'il y a des questions qui se posent sur le congé parental. Certaines oui. femmes se le voient refuser ou alors se voient imposer un certain rythme qui va forcément celui qu'elles voudraient. Vers qui on peut se tourner dans ces cas-là?
Mais il faut se tourner vers un avocat parce que précisément, ces personnes-là, je ne les refoule certainement pas. Au contraire, c'est un accompagnement que je mets en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un courrier qu'elles reçoivent, que je ne commente avec elles, que je ne travaille avec elles, et elles n'envoient aucun courrier sans que je les ai réfléchis avec elles. Je suis vraiment alors dans un soutien, si vous voulez, stratégique du quotidien. C'est infiniment plus contraignant, d'ailleurs, sur le plan professionnel, ce type d'accompagnement, que celui qui consiste à faire un diagnostic, à saisir un juge et à attendre l'audience, si vous voulez. C'est un accompagnement, c'est un combat, hein, au sens propre du terme, et on a parfois le sentiment que c'est un combat familial qui est mené aussi avec le concours de l'avocat qui est un petit peu intégré à, de ce point de vue à la vie familiale. Non, non, là, on a plus que jamais besoin d'un avocat. C'est indispensable même. Ce n'est pas la saisine du juge, mais c'est la préparation d'un dossier. C'est la préservation des intérêts de la femme qui veut reprendre son activité professionnelle et retrouver réellement sa place. Donc là, on est parfaitement utile dans cette situation-là. On est même indispensable. Sans rentrer dans la batterie de textes qui organise finalement ce retour avec un souci protecteur, je veux souligner qu'il y a un droit des femmes à ne pas changer d'emploi, parce que l'employeur peut effectivement proposer, voire mettre en œuvre un changement d'emploi. Ça n'est pas possible. Hein. On peut en quelque sorte neutraliser une volonté en soi peut-être légitime de l'employeur de changer quelqu'un d'affectation, encore une fois à qualification égale, bien sûr, et à salaire équivalent. Hein. On est sur quelque chose qui est en principe garanti, mais avec la réserve que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui a trait à la difficulté de trouver des arbitrages en temps réel si on ne trouve pas d'accord, bien sûr. Encore des dispositions plus précises, par exemple pour les femmes, certaines femmes qui travaillent de nuit, que l'on ne peut pas contraindre à choisir un travail de jour, mais qui peuvent en revanche demander à bénéficier d'un travail de jour. L'employeur ne peut pas s'y refuser. Donc on a quand même un certain nombre de petites dispositions techniques, si vous voulez, qui sont autant d'outils permettant, si on regarde les choses avec précision, d'agir sur le réel. Très souvent, des textes que les salariés ignorent et que les employeurs ignorent, et que les syndicats, d'ailleurs, ignorent également.
Ben, c'est bien de le dire, et c'est pour ça aussi que je vous amène vers cette question-là, c'est que moi-même, je ne savais pas à quoi servait un avocat jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait eu besoin, ou en discutant avec d'autres personnes, effectivement, l'avocat, ce n'est pas juste celui qui va vous défendre devant un tribunal, c'est aussi celui qui vous conseille, celui qui peut vous coacher dans le cadre de la défense de vos droits.
C'est pas un mot que j'utilise, mais c'est exactement ça. J'ai en tête un garçon qui a un peu plus de 30 ans, que j'ai coaché, qui vivait une situation de harcèlement moral. J'ai déjeuné avec lui hier, et on en reparlait. Pendant 2 ans, nous échangions 2 ou 3 fois par semaine, week-end et vacances inclus. Oui. Donc c'est infiniment plus contraignant, si vous voulez, pour l'avocat, et plus nécessaire finalement que je le crois pour le ou la salariée concernée. C'est un lien qualitatif redoutable. Et effectivement, on a réussi à évincer le N+1, qui était un harceleur de type pervers. Oui. Et on construit, si vous voulez, un rapport qui permet, dans un certain nombre de situations, de résoudre les difficultés. Et notamment celle-là, celle qui est finalement le propre des situations professionnelles des femmes à l'issue de leur congé maternité et qui doivent se retrouver leur place ou une place équivalente. Ça, c'est vraiment un travail d'accompagnement nécessaire, vraiment.
D'accord. Voilà.
Il n'y a pas moyen d'éviter de faire du droit, si vous voulez. Mais faire du droit, c'est pas aller vers le juge, toujours. C'est aller vers le juge quand on ne peut pas faire autrement. C'est du coaching, vous avez raison. Car grâce à ça qu'on peut résoudre des difficultés graves et sérieuses et éviter à un certain nombre de femmes d'avoir à choisir entre rester dans l'entreprise ou s'occuper de leurs enfants, ce qui est très souvent posé dans ces termes par un certain nombre d'employeurs qui n'ont pas compris quelle était leur responsabilité à cet égard. Voilà. Mmh. Et je ne veux pas me polariser sur le rapport salarié-employeur parce que ces incompréhensions-là, elles existent aussi horizontalement chez les collègues de travail. Hein, qui, je jette la pierre à personne, c'est une réalité ça. C'est notre culture, hélas, qui est celle-là.
Vous parliez de harcèlement, du coup je pensais en vous écoutant que c'est à la fois du coaching, ça permet à la personne d'avoir des bons conseils, d'être guidée dans le cadre du droit, de faire valoir justement ses droits et de faire en sorte de se faire entendre de sa hiérarchie, mais c'est aussi, si jamais la situation finissait quand même par dégénérer ou par se finir par une rupture, c'est aussi un moyen d'anticiper et de préparer des preuves. Aussi, le fait d'être accompagné par quelqu'un de spécialisé.
Bien sûr, mais c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on prépare le procès futur s'il n'y a pas d'alternative au procès. C'est exactement ce que l'on fait. Et si je peux me permettre de dire le contraire de ce que beaucoup de gens pensent à propos du harcèlement. Le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, ça n'est pas comme... c'est souvent répété, quelque chose de difficile à établir devant le juge. Ça n'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose, bien sûr, qui présente c'est un travail exigeant, mais c'est parfaitement possible pour toute une série de raisons. La première de ces raisons, c'est qu'on n'a pas à établir une intention malveillante de l'employeur. Les gens ne le savent pas, mais le harcèlement moral, c'est un harcèlement objectif. Ça n'est pas seulement le harcèlement du pervers. Ça peut être un harcèlement gestionnaire, hein, une gestion des personnels à flux tendu, ça peut être un harcèlement managérial. L'intention malveillante ne doit pas être démontrée devant le conseil des prud'hommes.
C'est le résultat, l'effet qui prime.
Tout à fait, l'effet objectif que le salarié réunit, rassemble et présente. Il justifie des faits objectifs qui, de son point de vue, pourraient constituer du harcèlement moral. Mais il n'a pas à démontrer qu'ils constituent ensemble du harcèlement moral. Il faut qu'ils soient de bonne foi et qu'ils disent, voilà, sur une période significative, voilà ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé cela. Et c'est à l'employeur alors de prendre la main dans le procès et à établir que chacun des faits choisis par le salarié, sélectionné par le salarié en fonction de son histoire et de son vécu, a une raison autonome et différente de celle qui est... présenté sous forme d'hypothèse. Donc on est vraiment dans un combat qui est facilité par la règle de preuve voulue par le législateur en matière de discrimination comme en matière de harcèlement moral et harcèlement sexuel. Donc même si le vocable fait peur, j'aime bien dire, parce que c'est la vérité, c'est ma pratique en tout cas, que ces contentieux-là ne sont pas les plus difficiles, ils sont souvent les plus faciles. Donc c'est une idée reçue, si vous voulez, que de dire « ah mais c'est très difficile le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel ». On n'y arrive pas. Non, regardons le texte. Il vous facilite finalement les choses. Et j'ajoute, et c'est la dernière chose que je dirais pour pas être trop technique, que le salarié qui prétend, mais qui se trompe, dénoncer une situation de harcèlement moral est protégé. Son témoignage le protège. Il ne peut être sanctionné pour avoir cru que les faits qu'il a présentés objectivement constituaient un ensemble de faits dissimulant une volonté d'éviction, de déstabilisation, etc.
D'accord. Il ne peut pas être tenu responsable de ça.
Oui, voilà. Sauf mauvaise foi évidente, si vous voulez, mais il y a une protection inscrite dans le texte. La victime, enfin, celle qui se dit victime, est protégée. Ainsi que le témoin, d'ailleurs, le collègue de travail qui dénonce le harcèlement moral subi par l'autre, il est également protégé. Donc, c'est finalement un texte qui facilite les procédures. Mais effectivement, ces procédures se préparent en amont, quand c'est possible.
Bah vraiment, merci, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes effectivement, qui avaient subi du harcèlement et qui ont mis de côté l'affaire en se disant « ça sera trop compliqué, j'ai besoin de passer à autre chose ». Et de toute façon, il y a effectivement cette idée reçue que c'est très très compliqué à prouver.
Il y a beaucoup d'idées reçues en droit du travail. Par exemple, vous avez entendu comme moi qu'il n'était pas possible de licencier quelqu'un en arrêt de travail, en arrêt maladie. C'est totalement faux.
En congé maternité également ?
Non, congé maternité, c'est interdit. Sauf situation particulière. Mais beaucoup de gens vous disent « Ah non, mon employeur veut me licencier, mais je vais me mettre en arrêt de travail. » J'utilise l'expression qui sont utilisées par les gens. Et de cette façon, je vais lui couper l'herbe sous le pied, pas du tout. Ce qui est interdit, c'est de licencier quelqu'un en raison de son arrêt de travail, de sa maladie, si vous voulez. Mais oui. Pas de licencier quelqu'un alors qu'il est en arrêt de travail. Ça, ce sont des idées reçues. Et le fait que le procès en harcèlement moral ou sexuel ou en discrimination est un procès difficile, plus difficile que les autres, c'est une idée courante, répandue et fausse.
Alors, précision pour ceux qui n'y connaissent rien, ce qui était mon cas il y a pas si longtemps. Parmi les avocats, il y a des avocats qui ont des spécialités. Du coup, lorsqu'on a des problématiques au travail, il faut aller chercher un avocat spécialisé en droit social. Et c'est important de le dire parce qu'on ne le sait pas forcément. Souvent, on fait appel à son réseau qui nous renvoie vers un avocat, un ami, ami d'amis, d'amis. C'est toujours bon, on va dire, en première intention, mais il faut vraiment se rapprocher de quelqu'un qui est spécialisé en droit social et idéalement quelqu'un spécialisé en droit social des salariés, parce qu'il y a deux sous-spécialités au sein de cette grande spécialité qui est les droits sociaux, n'est-ce pas ?
Alors oui, alors bien sûr, vous avez raison, mais c'est le parcours du combattant, le choix de l'avocat. Je dis souvent aux gens que je reçois pour la première fois, j'aimerais pas être à votre place, c'est très compliqué de raconter sa vie, l'intime. Le professionnel, c'est l'intime, hein. À quelqu'un que l'on ne connaît pas parce que un ami vous a donné son nom. Il faut de bons spécialistes. Il y a de très bons spécialistes partout. Et je suis pas très bien placé pour dire qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui défend les salariés, mais je le crois. Évidemment, moi, je ne fais que ça et j'ai choisi de ne pas défendre les employeurs. Ça ne veut pas dire que je crois que tous les employeurs sont des vauriens et que tous les salariés sont des saints, mais c'est un choix de transparence et d'efficacité et d'image d'ailleurs aussi, puisque l'image contribue à l'efficacité, hein, c'est pas seulement une question d'ego. Donc effectivement, il faut, vous avez raison, des spécialistes. Après, j'ai envie de dire que le subjectif compte, hein. Il faut avoir des affinités suffisantes avec son avocat pour vivre avec lui. On passe beaucoup de temps ensemble, hein. On vit longtemps avec nos clients. Hein, donc effectivement, c'est aussi un choix affinitaire et de sensibilité. Je comprends que les salariés préfèrent s'adresser à un avocat qui défend les salariés et qui l'affiche. Moi, je ne m'en suis jamais caché.
Ça va me permettre de faire deux petites apartés. La première, vous parlez, c'est important, du choix de l'avocat. Je pense que c'est très, très important parce qu'effectivement, pour quiconque n'a jamais fait appel à un avocat, on peut prendre la parole d'un avocat qu'on interroge comme... je ne vais pas dire la parole du Messie, mais en tout cas comme une parole d'expert. Et si ça ne va pas dans le sens de ce qu'on veut ou s'il n'y a justement pas d'affinité particulière, on peut vite se sentir refroidi et ne pas aller plus loin dans la procédure. Mais il faut se dire que c'est comme pour un psy ou comme pour un médecin. Il y a l'expertise d'un côté, bien sûr, mais il y a aussi la disponibilité et les interactions à ce moment-là qui comptent énormément. Et donc, n'hésitez pas, si vous envisagez à un moment donné de faire appel à un avocat, en tout cas de vous interroger sur la dimension juridique d'une problématique que vous avez au travail, d'en sonder plusieurs. Et surtout, n'hésitez pas à vous dire, si vous rencontrez un avocat ou une avocate avec lequel vous n'avez pas d'affinité particulière, à en changer. Je pense que c'est très important parce que c'est comme pour un médecin. Je recommande toujours d'avoir un deuxième avis. C'est important pour pas rester sur peut-être une sensation de frustration et pouvoir aller jusqu'au bout d'une procédure si on a envie d'aller jusqu'au bout.
Le choix de l'avocat, c'est fondamental. C'est certainement pas quelque chose qu'il faut faire rapidement. Il faut pas hésiter à aller voir une ou plusieurs personnes pour réfléchir. Ce qui est très clair, c'est que si au terme d'une consultation, le salarié, la salariée n'est pas requinquée, non pas reconstruite, mais en tout cas encouragée, et si elle ne se sent pas bien, il faut insister. C'est vraiment un rapport personnel. Il m'arrive très souvent de recevoir des gens qui ont, c'est même fréquent, pas toujours, mais très fréquent de recevoir des gens qui ont déjà eu des consultations d'avocats. Et ces consultations d'avocats, ils ne me les restituent ou pas, ça n'a pas d'importance.
Juste pour expliquer un petit peu le process pour quiconque n'a jamais fait appel à un avocat et surtout pour désacraliser le sujet, parce que parfois certaines personnes ne vont pas au bout de leurs idées, ne serait-ce que parce qu'elles ont peur de faire appel à un avocat, parce que c'est pas quelque chose de fréquent du tout, donc on ne sait pas trop comment s'y prendre. Concrètement, lorsqu'on a une problématique, il y a une première consultation avec un avocat, comme un peu une consultation chez un médecin. On vient expliquer ce qui nous amène, les problématiques, et puis c'est un échange avec l'avocat qui va ensuite se positionner et commencer à réfléchir avec la personne en face, la personne qui vient le voir, sur les éventuelles suites à donner et des conseils pour, on va dire, commencer à bien mener la procédure ou quelle posture adopter vis-à-vis de l'entreprise.
je veux pas me mettre au centre de notre discussion, mais j'attache beaucoup d'importance à la consultation, ce qu'on appelle la consultation. Je pense que c'est pour nous le travail le plus difficile. C'est-à-dire qu'au moment où on ne sait pas grand-chose de l'histoire qui nous sera racontée sur plusieurs mois, au fond, les gens ne vident pas leur sac d'un coup, il faut avoir cette patience aussi, réciproquement. C'est à l'occasion de ce moment où on ne se connaît pas, où il faut proposer des pistes de façon suffisamment concrète pour que la personne qui sorte du cabinet ait le sentiment, pas seulement d'avoir été écoutée, entendue, mais d'avoir été enrichie d'explications et de lectures, si vous voulez, qu'elle n'avait pas pu faire seule. C'est un travail considérable d'attention et de réflexion. Donc, c'est le plus important pour nous. On ne facture d'ailleurs pas les consultations. Mettre à l'aise et dire aux gens, venez nous voir autant de fois que vous le voulez pour que cette discussion est là jusqu'au bout. On n'est pas là pour savoir si vous allez plus tard nous mandater ou pas. Parce que nous devons être capables d'une discussion libre. La personne qui vient me voir ne doit pas se dire, je m'engage dans quelque chose, ai-je raison de m'engager ? Qu'elle oublie, mais que nous nous écoutions. Voilà. Et qu'elle revienne une fois, deux fois, trois fois. Elle ne sera pas facturée parce que c'est la politique du cabinet. On fait payer notre travail lorsqu'un mandat est donné. Non, c'est un exercice de liberté, la consultation. Et cette liberté, elle est, me semble-t-il, un petit peu freinée par ceux qui facturent la consultation.
C'est une précision à avoir en tête. Les cabinets d'avocats, en général, facturent les consultations de quelques centaines d'euros, tout dépend ensuite, parce que ce n'est pas un tarif fixé, mais c'est un tarif libre, et souvent c'est un coût horaire déterminé par les avocats. Vous, en revanche, dans votre cabinet, vous avez décidé de ne pas facturer pour effectivement faire en sorte que chacun puisse se mettre en posture de travailler avec un avocat et pas avoir ce frein financier au départ.
C'est un choix. Alors, la gratuité de ce que vous appelez la première consultation, moi, je parle jamais de première consultation parce que toute consultation est gratuite dans notre cabinet. Et c'est vrai qu'on est différent des autres. Il est évident qu'un rapport de travail entre avocat et justiciable, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une très longue durée. C'est 6 ans à Montpellier.
6 ans.
Hein? Prud'homme, oui. Appel. 6 ans, vous vous rendez compte. Vous travaillez avec quelqu'un pendant 6 ans. Si dès le départ, il n'y a pas un rapport d'égalité, un sentiment de liberté dans le respect de l'autre, si l'atmosphère des rendez-vous, des premiers rendez-vous, loin des poncifs et des idées reçues sur l'avocat qui reçoit dans un très beau bureau et qui s'en fiche un peu et qui de toute façon a beaucoup de travail et qui passe peu de temps avec ses clients, etc. Ça, c'est une. Bien sûr, c'est aussi la réalité. Hein, je les connais, mes confrères. Je ne les accable pas parce que je connais leurs difficultés, mais le fait d'avoir été bâtonnier fait qu'effectivement, je sais que beaucoup sont rapides, voire expéditifs dans leur première rencontre. Mais c'est dommageable pour la qualité du travail qui sera fait. Et pas seulement, ce n'est pas seulement une histoire de confort, si vous voulez. Tout ce qui est qualitatif dans le rapport, c'est incroyablement productif parce que la cliente ou le client va me donner l'information que je n'aurais pas décelée parce que précisément, il y a ça.
Vous parliez des 6 ans, rassurez-moi, ça ne dure pas toujours aussi longtemps. Il y a des fois, il y a des négociations que vous faites avant.
Ben, on va devant toutes les cours d'appel, évidemment beaucoup plus la cour d'appel de Montpellier que les autres, mais on est souvent devant la cour d'appel de Paris, et de Lyon, d'Aix-en-Provence, très souvent. Les délais sont les mêmes. Il y a un encombrement incroyable des juridictions sociales. Elle souffre beaucoup. Les conseils des prud'hommes ne réussissent pas à évacuer les contentieux qui leur sont confiés. Et lorsque les jugements sont rendus, c'est là que le pire survient. C'est-à-dire que les justiciables se voient annoncer que leurs affaires seront plaidées 4 ans, 5 ans plus tard. À Montpellier, c'est actuellement 4 ans qui s'écoulent de façon générale entre le prononcé des jugements et l'évocation de leur affaire devant la cour d'appel. Vous voyez, quand je vous disais que la procédure est indispensable, mais qu'elle ne permet pas de se calquer sur le calendrier vivant de la relation de travail, en voilà la raison. C'est pas possible que le traitement judiciaire soit ainsi malmené. Et on est régulièrement condamné hein, pour ne pas être en capacité, la France, de rendre la justice dans des délais suffisants et dans des délais qui correspondent au principe du procès dit équitable. C'est un petit peu moins pire devant la Cour d'appel de Paris, mais on attend en général un peu plus de 2 ans après le prononcé du jugement prud'homal. Mais c'est pas rien.
C'est-à-dire, quand vous dites après le prononcé du jugement prud'homal, c'est-à-dire...
Il y a deux parties au procès. Celle qui a perdu fait appel.
D'accord, ouais.
C'est pas une hypothèse, c'est toujours comme ça.
Ah, c'est systématique ?
Dans 90% des cas, il y a un appel.
D'accord.
À l'initiative de l'employeur ou du salarié. Donc, quand je pense à la durée du procès prud'homal, je pense à la durée du procès prud'homal, appel compris.
Ah.
Et quand... Appel compris.
D'accord.
Donc, ce délai de 5 ans, c'est le délai global qui s'impute à compter de la saisine prud'homale, du dépôt d'une demande et de son traitement en appel. 90% des procès prud'homaux font l'objet d'un appel.
Je comprends.
C'est considérable. Jamais la justice prud'homale n'a été à ce point sinistrée en France. Jamais.
Oui, alors 5 ans en moyenne, si on parle des prud'hommes puis de la cour d'appel, qui est du coup quasiment systématique, si je vous entends bien. Du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire à une femme, à une mère qui subit des injustices à son retour de travail? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour qu'elle ne lâche pas et qu'elle ne s'arrête pas avant qu'elle se dise « Ok, je vais quand même lancer une procédure, quand bien même ça peut durer 5 ans ».
Alors, le procès, lorsqu'il est fait, il est fait par quelqu'un qui a non seulement été victime d'une injustice, qui en a conscience, qui ne le supporte pas et qui veut tourner la page dans de bonnes conditions. Mmh. Tourner la page dans de bonnes conditions, c'est résister, c'est ne pas accepter l'injustice. Parce que la fonction première du travail, du vôtre, du mien, c'est pas nécessairement la fonction économique, son efficacité financière. C'est une fonction identitaire. Nous vivons dans des sociétés qui ont notamment cette marque-là. Le travail efficace, productif, c'est ce qui fait que l'on est reconnu. Mmh. La personne sans travail est évincée de toute la société et pas seulement du monde du travail. Elle se sent évincée, elle se sent exclue, elle est de fait exclue. Toutes les atteintes à la dignité des femmes et des hommes sont des blessures identitaires. Les psychiatres parlent d'expériences de destruction identitaire. J'ai parlé tout à l'heure du risque du désamour de soi. Ouais. C'est ça l'enjeu des procédures. La réparation financière espérée n'est qu'un des accessoires de ce procès. Rares sont celles qui me disent « j'espère en tirer beaucoup ». Tout le monde espère obtenir le meilleur résultat. Mais l'objectif n'est pas celui-là. Il est d'obtenir une réhabilitation professionnelle, de pouvoir repartir dans un combat, de pouvoir se réapproprier ses capacités, de se retrouver soi-même, d'être respecté et de se respecter soi-même. C'est la fonction du travail. Et je dis très souvent, résister, c'est exister. Et ça n'est qu'une expression, ça n'est qu'un slogan, mais j'ai rien trouvé de mieux que cette conclusion lorsque la cliente va faire le choix d'engager ou pas une procédure. Tourner la page, oui, mais tourner la page en dignité, c'est ne pas accepter d'être jeté comme un Kleenex, d'être méprisé. C'est ça mon rôle et c'est ça le cœur de mon métier. C'est ce qui m'attache à ce métier après plus de 40 ans d'exercice professionnel.
Quand je vous écoute, je me dis que c'est à la fois un combat et une démarche thérapeutique.
Parfois, on m'appelle le docteur dans l'entretien. Et j'ai pas de compétences, évidemment, mais c'est clairement thérapeutique. C'est pas mon action qui est thérapeutique. C'est l'engagement des gens dans ce combat qui procède de l'autothérapie, si vous voulez. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Parce que quitter l'emploi dans lequel on a souffert, c'est pas une décision. C'est une décision qu'on subit. Est-ce qu'on peut en rester là? C'est ça la raison du procès.
Oui. Ça me fait penser, lorsqu'on préparait cette interview, vous me disiez que vos clientes, elles avaient une approche particulière, différente des hommes. Elles étaient beaucoup plus combatives, beaucoup plus déterminées.
Oui, oui, oui. Chez un certain nombre de clients hommes, c'est un peu de la gestion d'affaires, le procès. Il faut que j'obtienne réparation. Et pour les femmes, c'est profondément identitaire, viscéral et identitaire. C'est vital pour les femmes. Vital. Mais il s'agit aussi de se faire respecter au sein de sa famille, même si le conjoint est bienveillant, archi-solidaire, si vous voulez. Mmh. Hein. On n'échappe pas à la société dans laquelle on vit.
Mmh, c'est presque statutaire. Ce qui me fait penser que lorsqu'il y a réparation, il y a aussi jurisprudence. Est-ce que vous m'expliquiez, lorsqu'on préparait cette interview, que le droit social est fait des textes, des lois donc, mais également de la jurisprudence. Donc c'est très important finalement de résister.
Ben oui, le juge crée du droit, parle d'ailleurs de jurisprudence normative en droit du travail, qui est un peu paradoxal, c'est pas les juges qui doivent faire la loi, mais on parle de jurisprudence normative. Et de très nombreuses réformes législatives sont venues entériner des solutions jurisprudentielles. Très très souvent, dans les 15 dernières années, les réformes du droit social se sont inspirées très nettement des décisions jurisprudentielles, des décisions des juges.
Mmh. Donc du coup, lorsque une femme qui subit une injustice a la capacité, on va dire émotionnelle, physique et financière de s'attaquer à son employeur, si elle obtient justice, réparation, elle travaille un peu à la cause des femmes de manière générale.
Ah, elle travaille très clairement à la défense de la cause des femmes de manière générale, évidemment. Je pense à au procès que j'ai fait pour une personne transgenre qui avait annoncé à son employeur et à ses collègues de travail qu'elle se présenterait désormais en femme. Et l'employeur était le seul à n'avoir pas accepté cette situation. Il l'a dispensée de toute activité professionnelle pendant un certain temps. Et puis, on a pris acte de cette situation et qu'on a fait juger comme un licenciement brutal de fait et un licenciement discriminatoire. Ces procès qu'on a fait il y a 20 ans, il y a 15 ans, ont précédé des réformes législatives sur ces sujets qui interdisent la discrimination des personnes transgenres. Voilà. Mmh. Mais ce sont des procès qui ont fait réagir finalement la société dans son ensemble et le législateur finalement. Donc effectivement, les procès sont utiles, en l'occurrence à la cause des femmes, puisque c'est notre sujet, mais pas seulement. Mmh. À bien des égards d'ailleurs, les personnes transgenres peuvent être considérées comme victimes de la même façon que le sont les femmes dans le travail. Mmh. Je n'assimile pas les deux situations, mais en tout cas, le traitement technique de ces sujets-là présente de très nombreuses similitudes. Et effectivement, ce sont les procès qui ont fait la loi, qui ont fait la loi plus tard.
Et donc, résister, c'est exister. Bah, merci beaucoup, M. Kirajarian. C'était extrêmement passionnant. Vous êtes un avocat passionné, ça le sent, et vous êtes un avocat philosophe, et ça apporte énormément quand on aborde ce sujet-là. Merci beaucoup en tout cas.
C'est pas faux. Merci à vous.
Toutes les atteintes à la dignité des femmes et des hommes sont des blessures identitaires. Résister, c'est exister. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai qualifié Maître Kirajarian d'avocat philosophe. Je dois avouer que j'étais profondément émue lors de cette interview. Car, pour la première fois, à travers ces mots, je mettais le doigt sur des ressentis qui étaient encore très flous pour moi à l'époque. C'est dire l'importance, lorsqu'on vit de telles épreuves, de s'ouvrir aux autres, et particulièrement à des professionnels connaisseurs du sujet. Parce qu'ils et elles vous apportent une reconnaissance des injustices subies, autant qu'une prise de recul nécessaire. Alors à toutes celles qui envisagent de se défendre juridiquement, mais qui ont peur de franchir le cap pour différentes raisons, j'espère que cet épisode aura nourri votre réflexion. Les deux prochains épisodes devraient continuer à vous faire cheminer également, car je vais recevoir Maître Fabing, avocate incontournable sur le harcèlement en France, qui nous donnera des conseils très concrets sur le sujet. Puis une jeune mère qui nous racontera en détail comment elle a construit sa défense dans une situation de harcèlement et de discrimination. Et pour toutes celles qui ne veulent rien entendre d'un point de vue juridique, votre décision est tout aussi légitime. Vous seul savez ce dont vous avez besoin.
Voilà, c'est la fin de l'épisode.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @lareprise.podcast.